Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Ce qui est spirituel n'est pas composé de matière. Il n'est pas de nature matérielle, il ne concerne pas la chair et ne peut être perçu par les sens. Ne pouvant ni voir ni toucher ce qui est spirituel, immatériel, l'homme le comprend difficilement. C'est pour lui un mystère qui parfois le met mal à l'aise. La Bible déclare que Dieu a tout créé. Tout ce qui existe dans l'incommensurable univers, les étoiles, les galaxies, dans l'espace, cette terre, l'homme, la faune, la flore, et tous les phénomènes naturels de la naissance à la mort, et tout ce que contient la terre en richesses variées et infinies. Dieu est un créateur. Il conçoit, il façonne, il forme, il donne la vie. Dans son évangile, l'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Dans ce passage, le mot « parole » ou le verbe selon certaines versions a été traduit du grec « logos » qui signifie « porte-parole » ou « parole ». Le mot « logos » s'applique à un personnage au sujet duquel l'apôtre Jean ajoute « Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » D'un côté, nous voyons que la parole était là, pour le commencement, et de l'autre, nous voyons que la parole est Jésus-Christ. Nous pouvons en conclure que la parole est un personnage divin, un être éternel qui se dépouilla plus tard de la gloire qui était sienne, afin de prendre la forme d'un être physique, un être composé de chair. La Bible nous révèle qu'à l'origine, il y avait deux personnages. L'un est celui qui plus tard deviendrait le Père et l'autre, celui qui deviendrait le Fils. L'apôtre Jean ajoute « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Or, à moins de se manifester de façon surnaturelle, ce qui est esprit est invisible aux yeux des hommes. À l'époque décrite dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jésus n'était pas encore né. Il n'était pas encore le Fils de Dieu et Dieu n'était pas encore son Père. Les rôles de père et de fils n'existaient pas encore entre ces deux êtres. Toutefois, ils formaient le noyau initial de la famille divine. Nous pouvons le comprendre sans difficulté en lisant ce que le roi David a écrit sous l'inspiration divine, et remarquez bien le temps futur du Verbe. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Le plus élevé des rois de la terre sera le Christ, au moment où il reviendra en tant que roi des rois. C'est lui qui devint le premier-né par une nouvelle naissance, qui l'a transformé d'être physique en être spirituel lors de sa résurrection. Pour le moment, la famille divine se compose de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Aucune mention n'est faite dans la Bible d'une troisième personne. Cependant, cette famille s'agrandira bientôt avec un grand nombre d'êtres humains qui actuellement sont déjà des enfants engendrés de Dieu et qui sont destinés à naître de nouveau, devenant ainsi des êtres spirituels lors de leur résurrection. L'apôtre Jean donne quelques détails supplémentaires. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Si le Fils unique est celui qui a fait connaître le Père, c'est que le Père n'était pas connu, ou connu par quelques privilégiés seulement, à l'époque de l'Ancien Testament. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire au cours d'une émission précédente, si personne n'a jamais vu Dieu le Père, celui qui s'est montré à Adam et Ève, à Abraham parmi les chênes de Mamré, à Moïse, avant la sortie d'Égypte et pendant la longue marche dans le désert, ce personnage ne pouvait pas être celui qui allait devenir le Père. Non, l'Éternel de l'Ancien Testament, celui que certaines versions appellent Yahvé ou Jéhovah, est celui qui allait devenir le Seigneur du Nouveau Testament, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a déclaré « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Révéler, c'est faire savoir ce qui est inconnu, secret. C'est faire connaître ce qui est ignoré. Quel est donc le nom de celui qui est devenu le Père, il y a de cela près de 2000 ans? En relatant ce que l'ange Gabriel déclara à Marie, l'apôtre Luc donne la réponse à cette question. Et remarquez ici encore le temps futur des verbes. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Le personnage divin qui portera le titre de Père après ces événements exceptionnels est celui que l'ange Gabriel appelle le Très-Haut. Nous constatons que le Saint-Esprit ne peut pas être un personnage divin, car selon ce récit, c'est lui alors qui devrait être le Père de Jésus. Le Saint-Esprit est la puissance, la pensée de Dieu. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans une émission précédente, et ce texte est mis gratuitement à votre disposition si vous souhaitez le recevoir. À quoi ressemble Dieu? Certains affirment que ce n'est qu'une seule personne, un personnage suprême, unique. Pour d'autres, c'est un seul être divin en trois hypostases éternelles, coessentielles mais distinctes. Il s'agit ici de la Trinité qui n'est pas biblique. On affirme que Dieu est présent partout à la fois et en tout lieu, qu'il s'insérerait partout dans l'univers entier, jusque dans le moindre recoin. Certains se le représentent comme un être âgé, avec une grande barbe blanche, mais Dieu n'a pas d'âge. Le temps n'existe pas pour lui et n'a donc aucun pouvoir sur son apparence. Paul a écrit dans son épître aux Colossiens que le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils avait donc les mêmes caractéristiques et les mêmes traits que le Père. À quoi ressemblent les personnages divins? Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Nous savons à quoi ressemble l'homme. Il est à l'image et selon la ressemblance des deux êtres divins. Dans plusieurs passages des Écritures, Dieu se révèle comme ayant un visage, deux yeux, une bouche et des oreilles, des bras, des jambes, des mains et des doigts. Il a aussi un corps, ce qui lui permet de s'asseoir sur son trône. L'un des disciples demanda un jour à Jésus, « À quoi ressemblait Dieu le Père ?» Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Le Christ avait la même apparence que le Père. D'ailleurs, n'était-il pas Dieu avec nous? Il était le Fils de Dieu, engendré de Dieu et né en tant qu'homme. Jésus ressemblait donc à un homme. Il est aussi appelé le Fils de l'homme. Il ressemblait aux autres Juifs de son époque, à tel point que ses ennemis durent payer Judas pour qu'il désigne le Messie par un baiser au moment de son arrestation. Nous savons donc que Dieu a la forme et l'apparence d'un homme. Nous savons aussi qu'il se compose d'esprit et non de cette matière physique qui compose l'être humain. À moins de se présenter à nous d'une manière miraculeuse, un être spirituel est invisible. Si les deux membres de la famille divine se manifestaient à nous d'une manière tangible, nous verrions Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, dans toute leur gloire, chacun ayant un visage semblable à celui d'un homme, à la différence que leur visage resplendit comme le soleil dans toute sa force. Il est grand temps que vous cherchiez à connaître le Père, notre Père et son Fils, notre Sauveur. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'adorer un faux Dieu, et non le véritable Dieu qui vous a donné la vie. Ce que vous révérez, ce que vous adorez, vous ne le connaissez peut-être pas. Vous risquez alors de vous adresser à un autre Dieu que le vrai Dieu. Avez-vous déjà recherché dans les Écritures le Dieu véritable, ce qu'il est, comment il est? N'acceptez pas ce que l'on vous dit, sans vérifier. Lisez attentivement votre Bible et découvrez dans celle-ci, et rien que dans celle-ci, qui sont les véritables membres de cette famille divine. Ne prenez pas le risque de prier un autre Dieu que le Très-Haut, un autre Sauveur que l'Éternel de l'Ancien Testament. En constatant les enseignements si variés donnés sur Dieu et sur notre Sauveur au sein des différentes confessions, on ne peut que se rappeler ce que l'apôtre Paul a écrit. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, dans le monde, ce qui est toujours le cas de nos jours. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous devons donc être très attentifs à ne pas adorer un Dieu qui n'est pas le Dieu véritable révélé par les Écritures. Si, sans vous en rendre compte, vous adorez Baal, il sera toujours Baal, même si vous lui donnez le nom de Dieu. Si sans savoir vous adorez Mithras, il sera toujours Mithras, même si vous lui donnez le nom de Jésus-Christ ou Sauveur. L'ancien Israël donna le nom de Yahvé au veau d'or, mais ce n'était qu'un veau d'or, une idole, une statue, malgré le nom qui lui était donné. La Bible démontre qu'il ne suffit pas d'adorer ce qui est appelé Dieu. Il faut regarder attentivement derrière l'étiquette afin de déterminer avec certitude s'il s'agit bien du Dieu vivant. Lorsque Moïse se trouva sur le mont Sinaï, devant le buisson ardent, il savait que le peuple d'Israël lui demanderait qui était ce Dieu qui l'envoyait vers Pharaon et qui voulait faire sortir ce peuple d'Égypte pour le libérer de la servitude et le faire entrer dans un pays où coulait le lait et le miel. Moïse savait qu'il ne suffirait pas de dire « Dieu est son nom ». Le Dieu dont il allait parler devait être défini, car les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte, et dans ce pays, Ra était appelé Dieu, Osiris était appelé Dieu, etc. Déjà à l'époque, il y avait de nombreuses idées différentes sur Dieu, et la confusion persistait, puisqu'on donnait, tout comme c'est toujours le cas de nos jours dans le monde chrétien, le nom Dieu à des idoles qui ne sont pas Dieu. Peut-être penserez-vous que c'est de l'histoire ancienne, mais n'importe qui peut entrer dans un magasin spécialisé afin d'y acheter une image du Christ, une statue en bois, en fonte ou en plâtre, censée le représenter, un crucifix ou même une simple croix qui n'est qu'un instrument de supplice. Il peut exposer cet objet dans sa maison et prétendre ensuite que ce qui a été fait sous l'imagination d'un peintre ou d'un sculpteur est tout simplement son sauveur. Quelle différence y a-t-il, à votre avis, avec le veau d'or? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Les gens ont tendance à donner à leur Dieu leurs propres caractéristiques. Nous en découvrons la preuve dans toutes ces représentations de Christ, dans tous ces crucifix qui diffèrent tellement les uns des autres. Pensez-vous vraiment que toutes ces différentes représentations correspondent au Dieu vivant? Ce n'est pas pour rien que le Christ a déclaré « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Il ne faut donc pas essayer de se le représenter. Puisque personne ne l'a vu, contentons-nous de l'adorer en esprit.